Victor Hugo, Le diable chiffonnier. En ce temps-là même, il était arrivé au diable une aventure désagréable et singulière. Le diable a coutume d'emporter les âmes qui sont à lui dans une hotte, ainsi que cela peut se voir, sur le portail de la cathédrale de Fribourg en Suisse, où il est figuré avec une tête de porc sur les épaules, un croc à la main et une hotte de chiffonnier sur le dos. Car le démon trouve et ramasse les âmes des méchants dans les tas d'ordures que le genre humain dépose au coin de toutes les grandes vérités terrestres ou divines. Le diable n'avait pas l'habitude de fermer sa hotte, ce qui fait que beaucoup d'âmes échappaient grâce à la céleste malice des anges. Le diable s'en aperçut et mit à sa hotte un bon couvercle orné d'un bon cadenas. Mais les âmes, qui sont fort subtiles, furent peu gênées du couvercle, et aidées par les petits doigts roses des chérubins, trouvèrent encore moyen de s'enfuir par les claires-voies de la hotte. Ce que voyant, le diable, fort dépité, tua un dromadaire et de la peau de la bosse se fit une outre qu'il sut clore merveilleusement avec l'assistance du démon Hermès, et de laquelle il se sentait plus joyeux quand elle était remplie d'âme qu'un écolier d'une bourse remplie de sequins d'or. C'est ordinairement dans la haute Égypte, sur les bords de la mer Rouge, que le diable, après avoir fait sa tournée dans le pays des païens et des mécréants, remplit cette outre. Le lieu est fort désert. C'est une grève de sable près d'un petit bois de palmiers qui est situé entre Corna, où est né Saint-Antoine, et Clisma, où est mort Saint-Sisoès. Un jour donc, le diable avait fait encore meilleure chasse qu'à l'ordinaire. Il remplissait gaiement son outre, lorsque, se retournant par hasard, il vit à quelques pas de lui un ange qui le regardait en souriant. Le diable haussa les épaules et continua d'empiler dans ce sac les âmes qu'il avait, les épluchant fort peu, je vous jure, car tout est assez bon pour cette chaudière-là. Quand il eut fini, il empoigna l'outre d'une main pour la charger sur ses épaules. Mais il lui fut impossible de la lever du sol, tant il y avait mis d'âmes et tant les iniquités dont elles étaient chargées les rendaient lourdes et pesantes. Il saisit alors cette besace d'enfer à deux bras. Mais le second effort fut aussi inutile que le premier. L'outre ne bougea pas plus que si elle eût été la tête d'un cochon sortant de terre. « Oh, âme de plomb !» dit le diable, et il se prit à jurer. En se retournant, il vit le bel ange qui le regardait en riant. « Que fais-tu là ? » s'écria le démon. « Tu le vois ? » dit l'ange. « Je souriais tout à l'heure, et à présent je ris. « Oh, céleste volaille, grand innocent, va !» répliqua Asmodée. Mais l'ange devint sévère et lui parla ainsi. « Dragon, voici les paroles que je te dis de la part de celui qui est le Seigneur. Tu ne pourras emporter cette charge d'âme dans la Géhenne tant qu'un saint du paradis ou un chrétien tombé du ciel ne t'aura pas aidé à la soulever de terre et à la poser sur tes épaules. » Cela dit, l'ange ouvrit ses ailes d'aigle et s'envola. Le diable était fort empêché. « Que veut dire cet imbécile ? » grommelait-il entre ses dents. « Un saint du paradis ou un chrétien tombé du ciel ? J'attendrai longtemps si je dois rester là jusqu'à ce qu'une pareille assistance m'arrive. Mais pourquoi diantre aussi ai-je outrageusement bourré cette sacoche ? » Et ce niais, qui n'est ni homme ni oiseau, se brûlait de moi. « Allons, il faut maintenant que j'attende le saint qui viendra du paradis ou le chrétien qui tombera du ciel. » Voilà une stupide histoire. Il faut convenir qu'on s'amuse de peu de choses là-haut. Pendant qu'il se parlait ainsi à lui-même, les habitants de Coma et de Clisma croyaient entendre le tonnerre gronder sourdement à l'horizon. C'était le diable qui bougonnait. Pour un charretier embourbé, jurer est quelque chose, mais sortir de l'ornière est encore mieux. Le pauvre diable se creusait la tête et rêvait. C'est un drôle fort endroit que celui qui a perdu Ève. Il entre partout. Quand il veut, de même qu'il se glisse dans l'amour, il se glisse dans le paradis. Il a conservé des relations avec Saint-Cyprien le magicien, et il sait dans l'occasion se faire bien venir des autres saints, tantôt en leur rendant de petits services mystérieux, tantôt en leur disant des paroles agréables. Il sait, ce grand savant, la conversation qui plaît à chacun. Il les prend tous par leurs faibles. Il apporte à Saint-Robert d'York les petits pains d'avoine au beurre. Il cause orfèvrerie avec Saint-Éloi et cuisine avec Saint-Théodote. Il parle au Saint-Évêque Germain du roi Childebert, au Saint-Abbé Vendry du roi Dagobert et au Saint-Nuque Ustazade du roi Sapor. Il parle à Saint-Paul le Simple de Saint-Antoine et il parle à Saint-Antoine de son cochon. Il parle à Saint-Loup de sa femme Biméniole, et il ne parle pas à Saint-Gomère de sa femme Gwynne-Marie, car le diable est le grand flatteur, cœur de fiel, bouche de miel. Cependant, quatre saints qui sont connus pour leur étroite amitié, Saint-Nil le solitaire, Saint-Autre-Moine, Saint-Jean-le-Nain et Saint-Médard, était précisément allé ce jour-là se promener sur les bords de la mer Rouge. Comme ils arrivaient, tout en conversant près du bois de palmier, le diable les vit venir vers lui avant d'être aperçu par eux. Il prit incontinent la forme d'un vieillard très pauvre et très cassé et se mit à pousser des cris lamentables. Les saints s'approchèrent. « Qu'est-ce ? » dit Saint-Nil. « Hélas, mes bons seigneurs !» s'écria le diable. « Venez à mon aide, je vous en supplie. J'ai un très méchant maître, je suis un pauvre esclave. J'ai un très méchant maître qui est un marchand du pays de Fès. Or, vous savez que tous ceux de Fès, les morts, numides, garamantes et tous les habitants de la Barbarie, de la Nubie et de l'Égypte sont mauvais et pervers, sujets aux femmes et aux copulations illicites, téméraires, ravisseurs ardardeux et impitoyables à cause de la planète Mars. De plus, mon maître est un homme que tourmente la ville noire, la ville jaune et la pituite, à Cicéron. Alors de là, une mélancolie froide et sèche qui le rend timide, de peu de courage avec beaucoup d'invention néanmoins pour le mal, ce qui retombe sur nous, pauvres esclaves, sur moi, pauvre vieux. « Où voulez-vous en venir, mon ami ?» dit Saint-Autre-Moine avec intérêt. « Voilà, mon bon seigneur, » répondit le démon. « Mon maître est un grand voyageur, il a des manies. Dans tout le pays où il va, il a le goût de bâtir dans son jardin une montagne de sable qu'on ramasse au bord des mers, près de lesquelles ce méchant homme s'établit. Dans la Zélande, il a édifié un tas de sable fangeux et noir. Dans la Frise, un tas de gros sables mêlés de ces coquilles rouges, parmi lesquels on trouve le cône tigré. Et dans la Kersonèse Saint-Bric, qu'on nomme aujourd'hui Jutland, un tas de sables fins, mêlés de ces coquilles blanches, parmi lesquelles il n'est pas rare de rencontrer la telline soleil levant. Oh, que le diable t'emporte, interrompit Saint-Nil, qui est de naturel impatient. Bien, au fait, voilà un quart d'heure que tu nous fais perdre à écouter les sornettes. Je compte les minutes. » Le diable s'inclina humblement. « Vous comptez les minutes, monseigneur, c'est un noble goût. Vous devez être du midi, car ceux du midi sont ingénieux et adonnés aux mathématiques parce qu'ils sont plus voisins que les autres hommes du cercle des étoiles errantes. » Puis tout à coup, éclatant en sanglots, et se meurtrissant la poitrine du poing. « Hélas, hélas, mes bons princes, j'ai un bien cruel maître. Pour bâtir sa montagne, il m'oblige à venir tous les jours, moi, vieillard, remplir cette outre de sable au bord de la mer. Il faut que je la porte sur mes épaules. Quand j'ai fait un voyage, je recommence et cela dure depuis l'aube du jour jusqu'au coucher du soleil. Si je veux me reposer, si je veux dormir, si je succombe à la fatigue, si l'outre n'est pas bien pleine, il me fait fouetter. Hélas, je suis bien misérable et bien battu et bien accablé d'infirmité. Hier, j'avais fait 6 voyages dans la journée. Le soir venu, j'étais si las que je n'ai pu hausser jusqu'à mon dos cette outre que je venais d'emplir. Et j'ai passé ici toute la nuit, pleurant à côté de ma charge et épouvanté de la colère de mon maître. Mais Seigneur, mes bons seigneurs, par grâce et par pitié, aidez-moi à mettre ce fardeau sur mes épaules, afin que je puisse me retourner auprès de mon maître, car si je tarde, il me tuera. Aïe, aïe. En écoutant cette pathétique harangue, Saint-Nils, Saint-Autremoine et Saint-Jean-le-Nain se sentirent émus, et Saint-Médard se mit à pleurer, ce qui causa sur la terre une pluie de 40 jours. Mais Saint-Nils dit au démon, « Je ne puis t'aider, mon ami, j'en ai regret, mais il faudrait mettre la main à cette outre, qui est une chose morte, et un verset de la très sainte Écriture défend de toucher aux choses mortes sous peine de rester impur. » Saint autre moine dit au démon, « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret, mais je considère que ce serait une bonne action. » Et les bonnes actions ayant l'inconvénient de pousser à la vanité celui qui les fait, je m'abstiens d'en faire pour conserver l'humilité. Saint Jean dit au démon, « Oh, je ne puis t'aider, mon ami, j'en ai regret, mais comme tu le vois, je suis si petit que je ne pourrais atteindre à ta ceinture. Comment ferais-je pour te mettre cette charge sur les épaules ?» Saint Médard, tout en larmes, dit au démon, « Je ne puis t'aider, mon ami, et j'en ai regret, mais je suis si ému vraiment que j'ai les bras cassés. » Et ils continuèrent leur chemin. Le diable enrageait. « Voilà des animaux !» s'écria-t-il en regardant les saints s'éloigner. « Quel vieux pédant ! Sont-ils absurdes avec leur grande barbe, ma parole d'honneur ? Ils sont encore plus bêtes que l'ange. » Lorsqu'un de nous enrage, il a du moins la ressource d'envoyer au diable celui qui l'irrite. Le diable n'a pas cette douceur. Aussi y a-t-il dans toutes ses colères une pointe qui rentre en lui-même et qui l'exaspère. Comme il maugréait en fixant son œil plein de flammes et de fureur sur le ciel, son ennemi, voilà qu'il aperçoit dans les nuées un point noir. Ce noir grossit, ce point approche, le diable regarde. C'était un homme, c'était un chevalier armé et casqué, c'était un chrétien ayant la croix rouge sur la poitrine qui tombait des nues. « Oh, que m'importe qui soit loué !» cria le démon en sautant de joie. « Je suis sauvé, voilà mon chrétien qui m'arrive. Je n'ai pas pu venir à bout de 4 saints, mais je serais bien le diable si je ne venais pas à bout d'un homme. » En ce moment-là, Pécopin, doucement déposé sur le rivage, mettait pied à terre. Apercevant ce vieillard, lequel était là comme un esclave qui se repose à côté de son fardeau, il marcha vers lui et lui dit, « Qui êtes-vous, l'ami, et où suis-je ?» Le diable se prit à geindre piteusement. Vous êtes au bord de la mer Rouge, monseigneur, et moi je suis le plus malheureux des misérables. Sur ce, il chanta au chevalier la même antienne qu'au saint, le suppliant, pour conclusion, de l'aider à charger cette outre sur son dos. Pécopin hocha la tête. Bonhomme, voilà une histoire peu vraisemblable. Mon bon seigneur, qui tombait du ciel, répondit le diable, la vôtre l'est encore moins, et pourtant elle est vraie. C'est juste, dit Pécopin. Et puis, reprit le démon, que voulez-vous que j'y fasse? Si mes malheurs ont pas bonne apparence, est-ce ma faute? Je ne suis qu'un pauvre de besace et d'esprit, je ne sais pas inventer. Il faut bien que je compose mes gémissements avec mes aventures, je ne puis mettre dans mon histoire que la vérité. Telle viande, telle soupe. J'en conviens, dit Pécopin. Et puis enfin, poursuivit le diable, quel mal cela peut-il vous faire à vous, mon jeune vaillant, d'aider un pauvre vieillard infirme à attacher cette outre sur mes épaules? Ceci parut concluant à Pécopin. Il se baissa, souleva le terre l'outre qui se laissa faire sans difficulté, et la soutenant entre ses bras, il s'apprêta à la poser sur le dos du vieillard qui se tenait courbé devant lui. Le diable a des vices, c'est là ce qui le perd. Il est gourmand. Il eut dans cette minute-là l'idée de joindre l'âme de Pécopin aux autres âmes qu'il allait emporter. Mais pour cela, il fallait d'abord tuer Pécopin. Il se mit donc à appeler à voix basse un esprit invisible auquel il commanda quelque chose en paroles obscures. Tout le monde sait que lorsque le diable dialogue et converse avec d'autres démons, il parle un jargon moitié italien, moitié espagnol. Il dit aussi çà et là quelques mots latins. Ceci a été prouvé et clairement établi dans plusieurs rencontres, et en particulier dans le procès du docteur Eugenio Tonalva, lequel fut condamné à Valladolid le 10 janvier 1528 et convenablement terminé le 6 mai 1531 par l'autodafé du dit docteur. Pécopin savait beaucoup de choses. C'était, je vous l'ai dit, un cavalier d'esprit qui était un homme à soutenir bravement une vespérie. Il avait des lettres. Il connaissait la langue du diable. Or, à l'instant où on lui attachait l'outre sur l'épaule, il entendit le petit vieillard courbé dire tout bas: Vamos, non siraucci, verbera, frappa, vieux calapiedra. Ceci fut pour Pécopin comme un éclair. Un soupçon lui vint. Il leva les yeux. Et il vit à une grande hauteur au-dessus de lui une pierre énorme que quelque géant invisible tenait suspendue sur sa tête. Se rejeter en arrière, toucher de sa main gauche le talisman, saisir de la main droite son poignard et en percer l'outre avec une violence et une rapidité formidables, c'est ce que fit Pécopin, comme s'il eût été le tourbillon qui, dans la même seconde, passe, vole, tourne, brille, tonne et foudroie. Le diable poussa un grand cri. Les âmes délivrées s'enfuirent par l'issue que le poignard de Pécopin venait de leur ouvrir, laissant dans l'outre leur noirceur, leurs crimes et leurs méchancetés, monceaux hideux, verrues abominables, qui, par l'attraction propre au démon, s'incrusta en lui et, recouverte par la peau de l'outre, resta à jamais fixée entre ses deux épaules. C'est depuis ce jour-là qu'Asmodée est bossu. Cependant, au moment où Pécopin se rejetait en arrière, le géant invisible avait laissé choir sa pierre, qui tomba sur le pied du diable et le lui écrasa. C'est depuis ce jour-là qu'Asmodée est boiteux. Victor Hugo, 1842.